RCF.
Père Thyriane, arrêtons-nous un instant sur le mot que l'on utilise pour décrire le calvaire, en fait, que Jésus a vécu jusqu'à sa mort. On parle de la passion du Christ. Pourquoi ce mot ?
C'est un peu étrange, en fait, car aujourd'hui, ce mot, on l'entend d'abord autrement, sous l'acception de l'être passionné. Je suis passionné, j'ai beaucoup d'utilité, j'ai envie de partager. Il y a une discipline qui m'attire tellement que je vais y consacrer tous mes soirs et tous mes week-ends. Et au nom de cela, je vais partager avec d'autres, je vais essayer d'attirer d'autres dans cette discipline, dans cette passion, dans ce sport de montagne, par exemple. Un être passionné. Mais ce n'est pas tout à fait cette acception que l'on peut faire jouer pendant la Semaine Sainte. C'est la passion au sens de la passivité. Jésus se livre librement entre les mains d'autres, qui eux sont hyperactifs, peut-être passionnés du fait de leur colère, de la justice qu'ils veulent faire. Et Jésus se laisse mener d'une main à l'autre, d'une violence à l'autre. Et ce qui est très étrange, c'est que justement ces deux acceptions du mot « passion », je ne sais pas si c'était connu du temps de Jésus, si le terme « être passionné » était utilisé, mais j'ai l'impression que Jésus les vit toutes les deux. Parce que c'était aussi un être passionné, Jésus. C'est au nom de la passion qu'il a pour les autres, pour le genre humain, l'amour extrême qu'il a pour ses contemporains.
Qu'il donne tout.
Qu'il donne tout. Comme un être passionné qui va tout vendre pour aller jusqu'au sommet de l'Himalaya, quoi. Et en même temps, ça va le conduire à être un jouet malheureux entre les hommes. Et du coup, il va endurer la passion. Il va en souffrir.
Jusqu'à en mourir.
Jusqu'à en mourir.
Donc là, on est face à une idée assez vertigineuse. C'est que Dieu est mort sur la croix.
Alors ça, c'est le grand thème de la mort de Dieu, oui. Non pas au sens de la critique philosophique du 19e, 20e siècle, où on conteste l'existence de Dieu, ou sa présence active dans le monde, mais au sens où, à travers Jésus, Dieu a enduré la mort. C'est assez tardivement qu'on ose en parler, réfléchir cela. C'est par notamment la théologie protestante du 20e siècle en Allemagne. Je pense notamment à Jürgen Moltmann, qui a écrit un livre monumental en deux tomes, enfin en tout cas dans l'édition française, qui est intitulé « Le Dieu crucifié ». Non pas Jésus crucifié, mais le Dieu crucifié.
Pourquoi est-ce que vous dites « on ose en parler » ? Et quelque chose d'impensable, au vrai sens du terme, dans cette idée de mort de Dieu ?
Je crois que de manière archaïque, on a tous au fond de nous-mêmes l'idée qu'un Dieu, le Dieu est ailleurs, que Dieu est impassible, que Dieu n'endure pas la passion. Il ne peut pas endurer aucun sentiment. Il est tout autre. C'est l'hyper-transcendant, on peut dire. Comment pourrait-il endurer quelque chose de ce qui a pu se passer sur la surface de la Terre un jour du temps ?
Rien ne peut l'atteindre.
Voilà.
Et en réalité ?
Si nous confessons que Jésus est Dieu, tout entier homme, alors l'ensemble de la divinité est affecté par ce qui lui arrive. Je pense que c'est une des originalités chrétiennes. D'où cette idée que le cœur de Dieu est affecté, le cœur de Dieu tout entier est affecté par la mort de son Fils.
Affecté, mais quand on parle de mort, mort de Dieu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas à proprement parler de ça.
Il ne s'agit pas de la disparition de Dieu.
Non, il s'agit de l'anéantissement.
De la mort qui affecte Dieu. Le travail de la mort qui peut affecter Dieu. Non pas l'affecter au sens de l'amoindrir, encore moins le faire disparaître, mais qui va, alors c'est difficile d'en parler parce que c'est très anthropomorphique, comme si ça allait changer quelque chose en lui. Affecter, c'est cela. Tout comme nous, lorsque nous sommes affectés d'une maladie, d'un amour, d'une amitié, ça peut être pour le meilleur. Habituellement, c'est pour le meilleur.
Donc c'est un Dieu vulnérable, un Dieu qui se laisse toucher,
oui.
Qui se laisse blesser.
Oui. Oui, tout à fait. Alors on avait des traces de ça dans l'Ancien Testament. On entend Dieu qui souffre d'entendre son peuple en esclavage. Il y avait des petites traces, comme ça, des petits indices déjà dans l'Ancien Testament. On dit, tiens, Dieu a un cœur, Dieu a des oreilles, Dieu entend et il vient. Voilà, pour parler. Ou bien, au tout début du livre de la Genèse, mais où es-tu, Adam ? Où te caches-tu ? Tu me manques ? Oui, tu me manques, oui.
Donc, il peut manquer quelque chose à Dieu.
D'une manière ou d'une autre, on peut dire ça. En tout cas, Dieu est attristé. Alors voilà, on est évidemment dans des terminologies tout à fait anthropomorphiques, hein, mais Dieu n'a qu'une attente, on peut dire, c'est de nous rencontrer, d'être en relation avec nous qui sommes ses enfants bien-aimés, qu'il a désiré voir.
Cette notion d'un Dieu qui se fait vulnérable, qui se fait tout petit, bien des auteurs en ont parlé, des auteurs contemporains. Je pense notamment à Éloi Leclerc ou à Maurice Zindel, pour ne citer que le très bas, ce Dieu qui est en dessous de l'homme, qui est encore plus bas que le plus bas des hommes. Ça peut être un peu choquant, même.
Oui, ça peut être choquant. Ou du moins, ça pourrait nous rendre schizophréniques, parce que si d'un côté nous sommes chrétiens et que nous contemplons la vie de Jésus, et que de l'autre, on confesse un Dieu comme celui-ci, il y a un moment, on a deux dieux, quoi, ou deux conceptions de Dieu. Alors, il s'agit de les relier. On peut dire, d'une certaine manière, que justement, la venue du Christ, enfin, de Jésus, que l'on reconnaît être le Christ, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, deuxième personne incarnée, nous fait faire ce chemin.
Ce Dieu, Père Thérianne, qui à travers Jésus descend au plus bas, est-ce qu'il a inspiré également des artistes qui ont tenté d'en dire quelque chose, d'en exprimer quelque chose? Parce qu'on voit bien que les mots nous manquent par moments et qu'on s'attaque là à des concepts, à des considérations difficiles à manier.
Je crois qu'en ce sens, l'art est le prolongement même de l'incarnation dont on bénéficie grâce au Christ, quoi. Le Verbe venu sur terre, qui s'est donné à voir, à toucher, comme dit Saint Jean. Alors oui, évidemment, il y a de nombreuses œuvres, quelques-unes peut-être que je pourrais citer rapidement. La première, c'est peut-être qui m'a le plus frappé, c'est une mosaïque d'un certain Rupnik, qui est un jésuite artiste à Rome, et qui a reçu une commande de la part des cardinaux pour restaurer une chapelle du palais apostolique au Vatican, du temps de Jean-Paul II. Et il a créé... cette chapelle, il a complètement occupé tous les murs, le sol, le plafond de ces mosaïques. Et à un endroit, et j'ai eu la chance, j'ai eu la grande grâce, on peut dire, même le privilège de pouvoir aller visiter longuement cette chapelle, il se trouve que sur l'un de ces murs, on voit un homme qui semble couché. Alors on reconnaît très vite que c'est Jésus. Il a les yeux clos, les mains croisées sur sa poitrine, tel à quelqu'un qui est mort. Et on se dit, tiens, c'est Jésus en son tombeau. Et puis on regarde un peu autour et on s'aperçoit qu'à sa tête, il y a un homme qui ressemble à Jean-Baptiste. Et puis juste au-dessus de la tête de Jésus, il y a comme un courant d'or. Et on dit, ah mais non, c'est le baptême de Jésus. Ah tiens, intéressant. Donc en fait, Jésus, en son baptême, commençait déjà à être au plus bas. Il y a un lien que l'artiste a fait entre le moment du baptême, où Jésus effectivement s'est mis dans la file des pécheurs, comme un simple homme, comme s'il était pécheur lui-même, un parmi d'autres, anonyme à ce moment-là encore, et puis la mort même de Jésus en son tombeau. Il y a comme une similitude à retrouver là, au plus bas à chaque fois, auprès de tout un chacun. Il demande le baptême, Jean-Baptiste d'ailleurs ne comprend pas bien, mais oui, fais-le, c'est ainsi que cela doit se faire. Ou quelques années plus tard, au plus bas, dans le tombeau.
Mais tout ça, c'est extraordinaire parce que ça fait vraiment partie de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme.
Ah non, pour le coup.
Et vous disiez qu'en lui sont possibles, peut-être même réconciliés, l'humanité et la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'il est pleinement Dieu à ce moment-là même. Alors, on prendra certainement un peu de temps pour essayer d'avancer là-dessus. Ça veut dire que la divinité va aller visiter pleinement notre humanité. Ce n'est pas seulement lui qui descend, c'est qu'en fait, il va nous entraîner.
Nous élever.
Nous élever, par là même. Parce que lui accepte de descendre, alors nous nous trouvons un compagnon à nos côtés qui va nous faire un chemin plus grand, plus élevé, plus éloigné, que nous n'oserions le pratiquer tout seul. Je pense à un autre moment, si vous le permettez, c'est une série de peintures où l'on voit effectivement quelque chose de l'abaissement, voire même quasiment de l'effacement de la divinité. Voilà. C'est tout le thème pictural de l'effacement du visage au moment de la Passion et de la Crucifixion. Je crois que ça a commencé avec Velázquez, ce peintre espagnol, qui a présenté un Christ crucifié. Alors, vu de loin, il ressemble à tous les autres crucifiés, sauf que ses cheveux recouvrent en partie son visage. Et puis plus tard, on va voir, alors là c'est beaucoup plus récent, au XXe siècle, un peintre allemand, Köder, qui va représenter par plusieurs fois le Christ en sa Passion, qui porte sa croix, au point qu'à un moment, il est entièrement derrière le bois de la croix, avec Simon de Cyrène. On voit les bras, on voit les corps, on ne voit plus de visage. Effacement. Au plus bas, on peut dire. Un homme sans visage, c'est un homme qui est au plus bas de l'humanité. Et puis ça sera repris par Salvador Dali, et entre-temps, ça sera repris aussi par Jean de la Croix, qui ont vu quelque chose en le représentant ainsi, tout en ne réussissant pas à le dire conceptuellement. L'effacement du visage de Dieu, et pourtant il est encore là. C'est une manière pour lui d'être parmi ceux qui sont sans voix, comme on dit, mais aussi sans visage, qui n'ont plus de place au milieu de notre société. Notre Dieu vient jusque-là, au plus près de nous, quand nous sommes sans visage, sans voix. Quand nous croyons ne plus avoir de place en ce monde, il est là parce que lui-même est passé par là.
Et donc là, on n'a plus du tout affaire au Dieu qu'on évoquait précédemment, loin, distant, qui est tout autre, mais tellement tout autre qu'il n'a rien à voir avec nous, en fait.
Ou qui pourrait nous effrayer, ou avec lequel on ne pourrait pas être en relation. Il est celui qui est à nos côtés. Comme on dit, il est tout en même temps notre Seigneur, notre Créateur, et en même temps, il est notre frère. C'est vrai. Enfin, si l'on suit ce parcours-là de la Semaine Sainte, de la venue du Christ parmi nous, il est vraiment notre frère.
On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.